Vous écoutez France Culture.
Merci Pablo. Nous faisons salon en musique à la porte de Versailles. Françoise Trossard et la belle équipe des Papous.
Bonjour.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 et après direction franceculture.fr pour le podcast. Alors, Papou et Dimanche sont intimement liés depuis bientôt 30 ans, comme le temps passe. Et il m'a semblé normal de rendre hommage à ce jour si différent des autres, qu'est le dimanche. Alors j'ai demandé à Patrice Comon de nous écrire le rap du dimanche.
Oui. Le dimanche, c'est d'abord la promesse du samedi.
Oui.
Demain, c'est dimanche, beauté qui se déhanche, promet sa nuit blanche, la belle suit les manches, nulle alarme se déclenche, demain, c'est dimanche. Sunday ou Sonntag, matin sans réveil, sur les murs, je tague, 1, 2, 3 soleils. Il n'y a jamais rien de trop. Repos est plus gros, repas est plus gras. Et chaque dimanche, c'est un mardi gras, en chemise blanche. Le temps et le café passent, c'est dimanche matin. L'ordi échelasse, le portable éteint. Matinée sera grasse, au lit on se prélasse, c'est dimanche câlin. Nous restons blottis sous la couette étanche, et qui nous engloutit façon avalanche. Au lit toute l'après-midi et jusqu'à la nuit. Le dimanche, on s'aime, le parking est gratuit. Sunday ou Sonntag, ce jour m'émerveille. Sur les murs, je tague, dimanche mon soleil. Comme on se marie jamais un dimanche, amour reste franche, ça sauve bien des vies. Ciel sans cumulus, on prend le Phébus, et puis l'autobus pour aller au puce. Sunday ou Sonntag, c'est un jour solaire, sur les murs je tague, armistice scolaire. Dans les bois, sous les branches, joue cow-boy et comanche. Il n'y a pas école dimanche, mais brunch si ça te branche. Sinon on se recouche pour une petite retouche. Peinte du dimanche, on remet une couche, et pêcheur de tanche rêve d'avoir une touche. Dimanche tout fait mouche, les nuages glissent. Les piafs chantent plus haut. Dans les parcs fleurissent les survêtes fluo. C'est de l'art cinétique, au pas de gymnastique. Muguet ou pervenche, c'est plus gai le dimanche. On fait du vélo, on fait du canot. En bras de chemise, au bord de l'eau, que le dimanche vous grise. Et à la radio, ils disent des bêtises. Sunday ou Sonntag, sur les murs je tague. Dimanche en papou, c'est dimanche ripou. Car chaque dimanche, à l'horaire tranche, mes oreilles se dressent pour la drôle de messe. J'écoute ces filous qui nous lavent la tête. Dimanche et papou, c'est vrai jour de fête. Sunday ou Sonntag, c'est dimanche et tout. Sur ma peau, je tatoue. I love you, papou. Pou, pou, pidou, pou.
Et c'est le moment du coup de gueule à vos pamphlets. Dominique Muller a quelque chose en travers de la gorge.
Ah oui, et comment?
Et il faut absolument que ça sorte. Vous êtes contre quoi, Dominique?
Je suis contre la prolifération du cadenas d'amour.
Ah, ouais.
Ben, ça a commencé en douce, en petit bobo, puis en maladie, et maintenant c'est une épidémie. Que dis-je, une pandémie galopante. Faut-il être moutonnier pour se laisser contaminer par la cadenamourite? Cadenas, ça veut bien dire enchaînement, fermeture, voire prison. Ou est-ce que je vis sur une autre planète pour croire qu'enfermer un couple amoureux à une grille est un contresens, une hérésie, un barbarisme? Oh, écoutez-moi, tourtereaux épris, au lieu d'acheter votre cadenas sous blister à un vendeur ambulant. Et ne venez pas me dire qu'il compte sur vous pour ne pas crever de faim. Prenez-lui des marrons chauds, une fleur, votre portrait en ombre chinoise, que sais-je. Un cadenas. Vous trouvez que votre duo roucoulant a l'air d'une bicyclette ou quoi? Si vous avez peur des voleurs, claquemurez votre tandem chez vous, bien à l'abri, au lieu de le cadenasser. Quelqu'un me proposerait à moi de sceller notre idylle avec un antivol, je déguerpirais à toutes jambes. Parce que l'amour, je vais vous dire, c'est la liberté, le risque, le danger, une aventure chaque jour réinventée, le vaste monde à deux, rien à voir avec une mise sous clé. Un cadenas à la patte, tu parles d'un symbole. D'un autre côté, si vous croyez qu'il suffit d'un cadenas pour vous enchaîner l'un à l'autre jusqu'à la fin de vos jours, grand bien vous fasse, je m'en tape. La honte, le vrai scandale, c'est que c'est moche, c'est hideux, ces accumulations de cadenas identiques, ces milliers de couples suspendus, enserrés les uns sur les autres parmi un étalage pendouillon. À part démontrer son désir de devenir propriétaire du plus grand magasin de bricolage du monde, je ne vois pas à quoi ça rime. Le fait est que partout, dans le monde entier, on se croirait dans un rayon bricolage à ciel ouvert.
Ça, c'est vrai.
Ben oui, oui. Ben oui. Ouais. Un exemple,
oui.
D'ailleurs.
Oui.
L'autre été, au fin fond de la Hongrie, à la porte d'un site élu patrimoine mondial de l'humanité, qu'est-ce que je vois ?
Eh oui,
qu'est-ce que je vois ? Un mur grillagé, installé exprès pour les cadenas. Parler d'un romantisme. Ah, il est beau, le patrimoine mondial de la quincaillerie. Je me souviens d'un temps où on gravait en catimini ses initiales entourées d'un cœur, dans l'écorce d'un arbre ou le bois d'un banc. On revenait des années plus tard, avec la même personne, ou une autre.
Bah oui, pourquoi pas. Oui,
souvent une autre, d'ailleurs.
Oui, oui.
Ce souvenir de sa jeunesse et s'attendrir sur sa niaiserie. Pas question de serrure, de clé, de métal froid, où il est impossible de graver son nom. C'est pas un cadenas anonyme qui a inspiré Shakespeare, que je sache. Roméo et Juliette s'appelleraient comment ? Ferme tout, super claque. C'est nul et puis c'est tout. Tu te promènes sur un pont, seul ou à deux. Avant, tu voyais les bateaux, les péniches, filer doucement dessous, proue d'un côté, poupe de l'autre, écorce sous tes pieds. Tu inventais des vies aux marins, tu rêvais aux estuaires. Maintenant, tu avances entre deux murailles luisant d'éclairs métalliques. Deux barres compactes qui bouchent la vue et le rêve. Le lent mouvement de la navigation, tu peux t'asseoir dessus, mais pas trop longtemps parce que c'est que ça pèse, cette insulte visuelle. Quand je pense que des employés municipaux sont dévolus à l'enlèvement des parcelles de grilles qui menacent de chuter sur leur fardeau de cadenas, c'est le pompon. Je me demande quand et comment ça a débuté. Quel couple, le premier, s'est dit « Tiens, et si on accrochait un cadenas à ce grillage, comme ça tout le monde saurait qu'on s'aime ?»
C'est Odile Conseil qui a fait ça en premier, je suis sûre.
Non,
Dieu. Odile.
Oh non.
C'est pas son genre.
C'est moi.
C'est Ricardo. Oui. Ah ben voilà le coupable.
En plus, il a dû être assez fier pour le raconter à un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la prolifération planétaire. Le jour où des aliens vont débarquer, ils vont en faire une tête. Et plus tard, les archéologues auront de quoi se perdre en hypothèses vaseuses. C'est quoi ce cimetière de cadenas ? Parce qu'ils vont où, les décrochés, jetés par la voirie ? Et la clé ? Ça aussi, je me demande ce qu'en font les couples. À quoi bon la garder, puisqu'ils ne reconnaîtront jamais leur cadenas s'ils veulent l'ouvrir ? J'en ai vu les lancer à l'eau. Genre, jamais rien ne nous séparera. Quoi ? Laisser les gens faire ce qui leur chante, m'occuper de mes oignons. Non, pas quand leur exhibitionnisme me dérange, quand ils offusquent les yeux, quand ils rabougrissent l'amour en lieu commun. D'ailleurs, il est l'heure que j'aille distribuer mes tracts sur un pont. Ça me défoule.
On vous retrouve bientôt. Bon, elle n'est pas contente du tout, Dominique Muller.
Je déteste.
Cela dit, on la comprend. Et il sera beaucoup question dans ce numéro des Papous dans la tête d'amour. Alors, est-ce qu'il y a une réaction au cadenas
pour moi.
Lucas Fournier, oui.
Oui, je suis un cadenas.
Ah, ça ne m'étonne pas.
Mais ça, oui, ça ressemble.
Et je ne vais pas la fermer, je vais l'ouvrir.
Ah, ouais. Oui. Pas facile vous avez pour un clé. Cadenas.
Dominique, j'ai un petit message pour vous. Les cadenas parlent aux amoureux. Je répète, les cadenas parlent aux amoureux. Écoutez bien les amoureux. Clic, clac, clic, clac. Ah, pour un cœur qui caracole aux 400 coups de l'amour, qu'il est coquin, le claquement sec du cadenas d'amour qui cliquette quand on le clôt d'un clic, clic, clac. Ohé les amoureux, sachez-le, votre allié c'est l'acier. L'acier,
elle est bonne.
L'acier indestructible du cadenas qui scelle vos amours. L'amour, c'est simple, un déclic, deux bras qui se ferment comme l'anse d'un cadenas, une clé qui trouve sa serrure, un endroit joli où se tenir accrochés l'un à l'autre, l'un dans l'autre pour toujours. Alors vous, les cadenas d'amour, courez vous en acheter un. Déjà, c'est plus facile à trouver qu'une copine. Hein. Et puis, qui sait. Votre amour vous attend peut-être déjà dans le magasin. C'est la petite vendeuse qui rêve derrière sa caisse enregistreuse. Ou le marchand en blouse grise. Ou cette passante égarée dans les rayons de bricolage. Un cadenas d'amour, c'est un clic de désir. Un cadenas d'amour, c'est un claque de plaisir. Un cadenas d'amour, c'est un point final sur l'i du verbe aimer. Un cadenas d'amour n'est pas fait pour clore, mais pour éclore. Un cadenas d'amour, c'est le vrai seigneur des anneaux. Un cadenas d'amour, c'est du métal et c'est du hard. Le métal, oui. Alors ça veut dire la relance de l'industrie métallurgique aidée aux fourneaux de Longwy. C'est l'emploi retrouvé dans les usines de Valenciennes.
Oui.
C'est du bonheur pour les quincailliers de la Malou.
Oui.
Et puis bientôt, parce que tous ces ponts aux rambardes de lestés de ces millions de cadenas devront être consolidés.
Eh ben oui.
C'est le bâtiment qui redémarre, les pelleteuses à Rouffignac, la machine-outil à Châteaubriand, le béton à Carpentras, les camions à Angoulême. Et ces cadenas, cela signifie que des ordres d'amoureux vont s'offrir des fleurs, joie des horticulteurs et des repas fins. Bonne nouvelle pour l'hôtellerie-restauration. Partir en week-end, le tourisme est relancé. Fabriquer des bébés avec des lingettes, des doudous, des poussettes. Et voilà, la puéricultrice, le textile, toute l'économie qui repart. Grâce à nous, cadenas, la France se redresse. Le ministre des Finances est ravi. La prospérité revient dans un pays plein d'amour. Ensemble, nous vaincrons, vous les amoureux et nous les cadenas. Ensemble, nous sauverons la France. L'amour, c'est simple comme un clic-clac. Clic-clac. Et voilà qui clôt le débat.
Eh ben oui, bravo. Bravo. Une page de Publipapoucité, elle est mitonnée par Patrice Caumont, philosophe et homme de pub. Il a écrit des jolis petits rôles pour Ricardo Mosner et Jeanne Carillon. Ça s'appelle Tango Mina, la gomina du tango. Et pour jouer du bandoneo, Pablo Gignoli. Musica, Pablo.
On n'a jamais vu un danseur argentin mal peigné, ni un poète de Buenos Aires l'arrêt de travers. Tango exige une coiffure aussi lisse que mon parquet.
De l'enfant te s'adueigne, un vrai porteigne ne sort jamais sans son peigne.
Si vos cheveux secs et cassants s'hérissent à la lecture de Borges, si vos tifs rétifs s'ébouriffent au style échevelé d'un Cortazar, chez Julio il y a des longueurs, mais il y a des pointes, découvrez vite la brillantine argentine des laboratoires Los Reales. Tango Mina, la gomina de l'Hidalgo.
Je cherche ma brillantine, titine, titine, oh titine, je cherche ma gomina et ne la trouve pas. Je cherche mon argentine, titine, oh titine, tango sans gomina, c'est pire qu'un faux pas.
Oui, mieux qu'un gel, la tangomina c'est un surgel qui va donner à vos cheveux des heures de colle comme tous les surgés.
Tangomina, c'est les pompons de la pampa.
Lustrés sous les lustres de Buenos Aires, les titis et les rastaquaires dansent dans le cirage. Chaussures vernies et cheveux gominés. Là-bas, c'est titi et gominé.
Tangomina est la solution radicale para una seducción totale.
Coiffeur, coiffeur, quand tu nous peignes. Quoi faire pour que ça tienne? Cheveux plaqués sans que ça déteigne. La con, brillantine des tango, mina. Et si ça frise, faut gominer. Même le gaucho comme un minet. Le macho peut s'efféminer. Pampa, brillantine des tango, mina. Borges, Borges, tu nous défrises. La go, mina, c'est la cerise sur le tango, et ça nous grise. Moumout, rouflaquette et tango, mina.
Entrez dans la danse avec Tango Mina, vous serez brillant. Comme disait Ramon Gomines de la Serna, l'auteur de la Celebración del Nichones, Tango Mina de Los Reales, parce que je le vaux bien.
Et moi aussi, je le vaux bien.
Et moi alors, la brillantine argentina, je la vaux pas tant bien. Cuando calienta el sol aquí en la playa, o en la playa de mayo, vamos a comer empanadas y vamos a la peluquería para comprar la tangomina. La tangomina es la mejor para desenredar las mechas de los López y pasarse el peine. Carancanfún, tangomina. Adiós, adiós, pampa mía, me voy. Yo también me voy.
Bravo. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, en direct et en public. Et quel public, nombreux, si nombreux. Merci à vous tous d'être venus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris. À suivre les gonfleurs de textes avec Gérard Mordilla, Dominique Muller, Serge Joncourt et Lucas Fournier. Alors, pour ce jeu, j'ai offert une petite phrase à Gérard Mordilla. C'est une petite phrase que j'ai piochée dans un livre que j'aime bien. Et cette phrase, il doit la gonfler, la nourrir de l'intérieur, s'infiltrer entre les mots pour essayer de construire une petite nouvelle.
Voilà.
Pratiquement, c'est ça. Mais vous ne devez pas toucher au premier mot ni au dernier. C'est la contrainte, qui n'est pas facile.
Je n'y ai pas touché.
Alors, lisez-nous la phrase de départ.
La phrase de départ. Il vendait le jouet du jour, une grenouille en carton peint, qui ressemblait, avec ses gros yeux ahuris, à Mademoiselle Petit-Oncle, la mercière des deux marchés.
Vous avez une idée de l'auteur de cette phrase, Gérard, Dominique, Serge, puisque vous avez joué aussi?
Aucune idée.
Aucune idée.
Aucune.
Rien?
Oui, rien.
Oh, bah alors, pourtant, vous avez tout lu.
Oh, bah bien sûr, oui, mais enfin, c'est, on ne peut pas se souvenir de tout.
Non, c'est sens. Vrai. Alors, c'est une phrase d'Alexandre Vialat.
Ah, je croyais que c'était Rob Grillet, mais non.
Non. Dans une nouvelle qui a pour titre « L'amour perdu ». Alors justement, puisqu'il est question d'amour aujourd'hui dans les papous, est-ce que vous avez senti l'amour dans cette phrase et continué dans la piste ou pas?
Non, je n'ai pas vraiment senti l'amour. J'ai essayé de la recontextualiser, de réintroduire des personnages et une situation géographique et sociale.
D'accord, on vous écoute.
Il descendit chez lui en pantoufles et robes de chambre. Rose Pompon, assise au pied de l'immeuble, vendait le jouet du jour, une grenouille en carton peint qui ressemblait, avec ses gros yeux ahuris, à Mademoiselle Petit-Oncle, la logeuse. Il acheta la grenouille de Rose Pompon et alla, sans tarder, la revendre à la vieille Tranche Brune, la mercière des deux marchés.
Bon, alors il y a deux nouveaux personnages, Tranche Brune et Rose Pompon, et on est déjà dans un univers très mordillesque, je dirais, on se croirait dans un de ses livres.
Et bien justement, moi quand j'entends la voix en plus de Gérard, immédiatement, ma fibre sociale se met à vibrer.
Ah c'est vrai, elle ne vibre qu'aujourd'hui alors que chez Gérard Mordillesque
uniquement, tous les jours. Moi c'est uniquement quand Gérard est là.
Alors, vous avez la même mission, il s'agit pour vous de doubler, mais non pas la phrase de départ, mais le texte de Gérard Mordilla, tout en respectant tous ses mots.
Ah, mais bien sûr.
Hein, voilà. Et surtout le premier et le dernier.
Mais bien sûr.
Allez, on y va.
Il descendit de chez lui en pantoufles et robes de chambre, espérant que Martine le croirait parti au travail. Rose Pompon, qui elle aussi venait d'être licenciée de la joujoutèque, était assise au pied de l'immeuble. Son enfant en bas âge, Lulu le malingre, vendait le jouet du jour subtilisé dans l'entrepôt, une grenouille en carton peint qui ressemblait, avec ses gros yeux ahuris, à Mademoiselle Petit-Oncle, la comptable frustrée qui, il en était sûr, les espionnait et répétait mot pour mot leurs intentions à Monsieur Grossinet, le patron de la joujoutèque, qui avait licencié sa logeuse pour faute grave injustifiée. Il acheta la grenouille au fils de Rose Pompon et alla s'asseoir dans sa vieille quatrelle, là où il passait ses journées. Sans tarder, on allait expulser Martine et les gosses. La voiture, il fallait la revendre. Sinon, il devrait faire du gringue à la vieille Franche Brune et piquer la caisse de la mercière des deux marchés.
Oh, y a plein de nouveaux personnages, Lulu le malingre et les autres.
Et surtout de la misère.
Et la joujoutèque qui ferme. On est chez vous, généralement. On se croirait dans votre dernier roman.
Ben voilà, la joujoutèque, je l'achète tout de suite. D'ailleurs, on va faire un LBO.
D'accord. Alors, Serge Joncourt, ce roman... ce court roman lancé par Gérard Mordilla, poursuivi par Dominique Muller, vous arrive. Même mission, le doubler en volume, vous infiltrer et peut-être avec un nouveau projet. Est-ce qu'on retrouve l'amour avec vous?
Le projet, moi, c'est de réchauffer.
Oui.
Oui, oui, de mettre un peu de chaleur.
Ah, encore plus, parce qu'il faisait déjà chaud.
Oui, encore plus.
Mais un peu de sexe, vous voulez dire?
Oh, non, jamais,
non.
Jamais.
Ah, bon,
c'est pas mon genre.
Bon.
Il descendit de chez lui en pantoufles et en robe de chambre, espérant que dehors, il ferait moins chaud. Martine, qui, depuis plus de 2 heures dans son bain glacé, le croyait parti au travail, Rose Pompon, qui, elle, crevait de chaud dans cette fournaise, venait d'être licenciée de la joujoutèque. Elle était allongée dans la rigole du caniveau, baignant dans l'eau de la ville, au pied de son immeuble. Son enfant en bas âge jouait donc dans le ruisseau de la rue avec sa bouée en plastique, alors qu'en face, Lulu le malingre, calé à l'ombre, vendait le jouet du jour subtilisé dans l'autre pot qui avait pris feu à cause de la canicule. Une grenouille en carton peint jaillit de la bouche d'égout qui ressemblait avec ses gros yeux ahuris à Madame Mademoiselle Petit-Oncle, la comptable frustrée qui, il en était sûr, les espionnait depuis sa douche et répétait mot pour mot leurs intentions à Grossinet, le patron de la joujoutèque, qui avait licencié sa logeuse pour faute grave à justifier. Comme il n'y avait plus rien à manger et que tous les steaks dans la boucherie étaient décédés, il acheta la grenouille au fils de Rose Pompon et il alla s'asseoir dans sa vieille quatrelle, là où il passait ses journées, pour en couper les cuisses.
De la grenouille?
Oui, et les faire rôtir dans l'allume-cigare.
Ah oui, c'est pratique.
Mais ça marche. À cause de l'odeur qui envahit tout le quartier, on allait expulser Martine et les gosses, alors que c'est de la quatrelle que venait l'odeur. La voiture, il fallait la revendre pour acheter des brumisateurs géants, sans quoi on allait tous cuire dans ce quartier. Sinon, il devrait faire appel aux pompiers pour qu'ils déclenchent la lance à incendie ou faire du gringue à la vieille Franche Brune pour qu'elle leur branche son ventilateur et pourquoi pas piquer toute l'eau de la piscine en plus de la caisse, à moins de se faire arroser par la mercière des deux marchés.
Et oui. Alors, est-ce qu'on est toujours chez Vialat? Je crois pas. On serait chez qui avec Sergent Cour?
Je dirais qu'on est chez Faulkner.
Oui, carrément.
Il fait très chaud.
Il fait chaud. C'est le sud profond.
Le sud. On dirait le sud.
On dirait le sud.
Mon Dieu, qu'il fait chaud. Lucas Fournier, vous intervenez dans cette histoire. Vous n'aviez pas connaissance ni du début, ni du texte de Gérard Mandia, ni de celui de Dominique Müller. Vous n'avez eu entre les mains que le texte de Sergent Cour. Et je vous ai demandé d'écrire un petit épilogue. Comment ça se termine, tout ça?
Auquel je n'ai rien compris.
Vous n'avez rien compris au texte de Cherche?
Non, pas grand-chose.
Ah bon? Pourtant, c'est un homme assez clair.
Mais j'ai vu ce qu'il y avait là-dessous.
Oui.
Parce que finalement, c'est pour ça que j'ai intitulé l'épilogue « Bérésina, mon amour ».
On retrouve l'amour avec Lucas Fournier.
Mais on n'est pas dans le sud, on est à l'est, là.
Oui, évidemment.
Parce que le combat social, finalement, c'est un champ de bataille. Et ce que vous venez d'entendre n'est pas un récit prolétarien, mais la description fidèle dans une allégorie militante. Serge est un peu notre insurgé, notre Ravachol, notre Steinbeck aussi.
Il ressemble un peu. Hein.
Oui, plus à Ravachol qu'à Steinbeck.
Voilà, c'est ce que je craignais.
Et donc, une description fidèle du célèbre tableau de Suchodolovsky qui est exposé au musée de Potsdam.
Lequel?
Alors, vous allez comprendre très vite. L'homme en robe de chambre n'est pas du tout en robe de chambre, mais en redingote. Et il ne descend pas de chez lui, mais de son cheval. Mais à la guerre, un cheval, c'est un peu un chez-soi.
Oui, sweet home, oui.
Vous le reconnaissez, c'est Napoléon.
Ah bon?
Oui. Martine, dans son bain glacé, c'est la cantinière du 28e régiment de hussards emportée dans un iceberg du fleuve. Car cette fameuse rigole de caniveau dans laquelle baigne Rose Pompon, c'est justement la Bérésina. Affluent du Dniepre, tout ça est dans le tableau. Hein.
Oui.
Rose Pompon, allongée dans l'eau comme un dormeur du Val, n'est autre que la femme du maréchal Ney. Lulu le malingre s'appelle Juju le malingre, car il s'agit bien du maréchal Junot. Petit oncle et le prince Eugène. Et enfin, ce que Serge exalté a pris pour les gros yeux de la grenouille, ce sont les gueules béantes des canons russes. Les fumées ne sont pas des méchouis à la grenouille, mais des combats et des armes. Et Joujoutek, rappelez-vous, était le nom de guerre des armées de Kutuzov et Wittgenstein. Donc, dans ce spectacle terrible, Serge, il y a quand même un espoir. Ce désastre n'en est peut-être pas un, car la bataille de la Bérésina, mais ça, peu de gens le savent, sauf Patrick, fut un succès français. Grâce au général Eblé. D'où le célèbre vers de Peggy, d'ailleurs, heureux les épimures et les blés moissonneux.
Mais
c'est une autre histoire.
Il a osé.
Carton. C'est l'heure d'une chanson argentine par Jeanne Carillon, accompagnée au bandoneon par Pablo Gignoli. C'est une chanson d'Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. Musica, Pablo.
Yo soy María De Buenos Aires, de Buenos Aires, Maria, non ven quien soy yo. Maria tango, Maria del Arrabal, Maria noche, Maria pasión fatal, Maria del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy Maria de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, charatata, le muerdo fuerte la boca, charatata, con 10 espamos en flor que choque mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando en la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, como el ayer después, che. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del Arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo.
¡Eso!
¡Bravo! Jeanne Carillon a beaucoup travaillé son accent avec Ricardo Mosner. Et ça s'entend. Et c'est le temps des fables sur France Culture pour des papous dans la tête. Mais attention, des fables d'un genre nouveau où les héros, les personnages principaux ne seront pas des animaux, mais des mots de hasard tirés au sort comme ils viennent. Et évidemment, il y aura la musique, le rythme de la fable et la moralité, parce que que serait une fable sans moralité ? Rien. Alors, Odile Conseil, je vous ai imposé par tirage au sort, évidemment, le bonheur et la chasse gardée. J'avais dit qu'il était question d'amour dans cette émission. La chasse gardée, c'est presque un cadenas, d'ailleurs. Mais avec le bonheur, ça fait deux jolis petits personnages, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez rajouté quelqu'un ?
J'ai rajouté une deuxième chasse gardée. Nous avons donc le bonheur et les chasses gardées.
Alors, ah bon, ah carrément, carrément. Ça va faire beaucoup. Alors, avant de vous écouter, on va entendre une... Le point de vue de Gérard Mordillat là-dessus, vous avez écrit un tout petit fabliau, je crois.
Voilà, j'ai écrit un petit fabliau où j'ai rajouté un personnage.
C'est... Oui.
C'est un petit bonheur dans une chasse gardée. Il est abandonné, il est désespéré. Entre dans sa prison une jolie fermière. Faisant ni une ni deux, il la mord au derrière. La belle enfant s'enfuit, cœur plein d'allégresse, ravi d'être mordu. Qu'importe si c'est aux fesses. Moralité, qu'il vous morde le cœur ou bien le postérieur, le bonheur libéré se moque des chasses gardées.
Ah, c'est très mignon. Ah oui. Très, très, très mignon. Alors, c'est à vous. Bon, c'est un point de vue peut-être masculin, je ne sais pas, sur le sujet. Et vous allez nous donner le vôtre, dit le conseil.
Un bonheur ni petit ni très grand, parfaitement normal, arpenter la campagne fredonnant du France Gall. Il cherchait un endroit où dispenser la joie, car quand on est bonheur, c'est à ça qu'on s'emploie. Or, il lui vint soudain une très forte envie. Vous avez bien compris, il voulait faire pipi.
Ah !
Il chercha des toilettes, mais quand il en trouva, se fit dire en deux mots de dégager Fissa par un gorille rogue armé jusque aux dents. « Hélas, dit une voix qui venait du dedans, une seule personne sur moi se laisse aller, du seigneur de ce lieu je suis chasse gardée. » C'était le réservoir qui ainsi lui parlait. Le bonheur, quel benet, en fut fort étonné. Une chasse gardée, mais à vrai dire, qu'est-ce ? Ce serait donc un lieu d'où l'on bannit les fesses.
Ah, les fesses reviennent comme c'est étrange.
Convaincu d'avoir vu une bien étrange espèce, le bonheur s'en alla, remit son cœur en liesse. Je trouverai bien un lieu où l'on m'accueillera, où je dispenserai à tous, à tour de bras, chansons et tralala, fous rires et gaietés, bref, tout ce que je suis et pourquoi je suis fait. Disant cela, il vit un mouton qui pleurait, mouillant autour de lui l'herbe folle des prés. À quelques pas de là, une vache sanglotait, toute retenue en fuite, l'air fort désespéré. Son petit reniflait, faisant comme maman, emplissant l'alentour de mornes beuglements. Les animaux sauvages n'en menaient pas plus large. Le cerf bramait sa peine, sa gueule ouverte large. Un sanglier, sa lait et leurs 8 marcassins n'avaient plus aucun goût à chanter Joe Dassin.
Ça c'est dommage, je vais vous dire.
Même les arbres étaient d'une humeur malheureuse, ayant comme les saules des branches de pleureuses. Ah ça, dit le bonheur, que se passe-t-il ici? Pourquoi tant d'afflictions? Quels sont tous ces soucis? Moi, je peux vous aider, je suis la solution. Je peux vous faire sortir de cette dépression. Si je m'appelle bonheur, c'est que j'ai le pouvoir de mettre du soleil là où règne le noir. Hélas, monsieur bonheur, firent les bêtes en cœur, c'est chez notre maîtresse qu'est entré le malheur. Avant-hier, elle riait, dansait cette beauté. Et puis voilà qu'hier, son père l'a mariée à un prince puissant, mais surtout fort jaloux. Il l'a fait enfermer loin de tous et de tout. Ma foi, dit le bonheur, je vais aller la voir. Aider les jeunes femmes, je m'en fais un devoir. Il approche la belle, la rejoint en secret, lui fait son compliment, lui propose de l'aider. Trop tard, mon cher bonheur, loin de toi je vivrai, c'en est fait de ma joie, je suis chasse gardée. C'est ainsi que m'appelle mon odieux mari, ce sinistre jaloux que mon père a choisi. In petto, le bonheur se dit, non mais c'est dingue, deux fois chasse gardée par de riches frappadingues. Je ne puis rien ici, ça me semble très clair. Il partit, chantonnant du Félix Leclerc, pour planter ça et là des graines de gaieté en se tenant bien loin de toute chasse gardée. On le vit se pencher parfois sur un berceau ou encore se nicher entre deux tourtereaux. Il visait aussi quelquefois les vieillards et même les poètes, ceux qui veillent fort tard, leur soufflant à l'oreille quelques mots et merveilles pour ficher dans nos cœurs des rayons de soleil.
Oh, mais comme c'est joli.
Moralité.
Oui.
Chasse gardée ou bonheur, il te faudra choisir. Ils ne peuvent ensemble s'allier avec plaisir. La première souvent veut dire enfermement. Choisis donc le bonheur, c'est quand même plus marrant.
Mais en même temps, être enfermé par un beau prince charmant, c'est pas si mal, non?
Ça se discute.
Deux nouveaux personnages pour deux nouvelles fables. Alors, c'est l'amour vache et la chasse au gaspille qui vous sont arrivés, Lucas Fournier. Est-ce que vous avez introduit un troisième personnage ou pas?
J'ai introduit un petit couple.
Ah, pourquoi est-ce qu'on dit toujours un petit couple?
C'est la question.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas depuis longtemps et qu'ils ne vont pas rester longtemps ensemble, c'est ça, non?
C'est que ça bat gentiment de l'aile.
Ah oui. Alors, avant de vous écouter, je vais découvrir le point de vue féminin d'Eva Almassy sur le sujet. Alors, entre l'amour vache et la chasse au gaspille, qu'est-ce que vous préférez, Eva?
L'amour vache.
Ah bon?
Oui. D'abord, j'aime les vaches, déjà.
Alors, racontez-nous.
L'amour vache et la chasse au gaspille. Vous savez quoi? On maria le bel amour vache à la chasse au gaspille, moins magnifique que Gatsby. Bonne chance qui vivra verra. Or, très vite, le mariage vira du meilleur au pire, voire au pis de l'amour vache qui, un coup je te nourris, un coup je te pourris, lui disait même au lit, je t'aime moi non plus chérie. Empêcha la chasse. Sachant chasser de savoir de quoi ils retournent dans leur manège, ni sur quel pied danser dans leur ménage. Pas sur un grand pied, surtout pas selon les vœux de la chasse au gaspille. Les restes, on les resservit et des bouts de chandelles éclairèrent leur vie. Mais l'amour vache exige des cadeaux, sans quoi pas de fricassé de museau. Ils jettent les assiettes à terre. la chasse au gaspille les récupère et dans son fort ainsi se morfond. Que n'ai-je épousé le cochon dans lequel tout eût été bon, de la queue à la tête, tandis que ma vache vacharde me met à la diète. Moralité, au couple si mal assorti, le mauvais sort à vie est garanti.
Oh, c'est pessimiste. Oh là là, hein. Oh là, c'est triste. En même temps, ces deux personnages qui vont pas très bien ensemble. Alors, avec le petit couple, est-ce que c'est plus joyeux?
Ah oui, ça va être joyeux.
C'est vrai?
Oui. Écoutez ça. Un amour vache avait élu domicile chez un couple ordinaire. Fin de mois difficile, la femme sans attrait, le mari sans manière. Un petit F3 dans la banlieue d'Asnières. L'amour vache rendait madame mugissante, monsieur portait des cornes. Trois paires envahissantes. Un chasseur de gaspilles débarqua chez ses gens. Il tint devant l'épouse un propos engageant. La planète en danger, l'énergie qui se perd, et la fin des ressources, et la montée des mers. C'était l'apocalypse façon naturo-bio. La naïve bourgeoise, à ses propos idiots, se sent comme investie devant l'humanité. Elle va sauver le monde et saura éviter à nos générations tout ce désastre immense. Suce au gaspille, trions. Cette folle en démence se met à recycler, c'est pire qu'à l'usine. Le soir, à son mari, elle crie dans la cuisine. « Descends donc la poubelle et trie dans les ordures, le carton, le papier, le fer, les épluchures. Rien ne se perd, rien ne se crée, sois rigoureux et ne va pas confondre le bac vert et le bleu.
Ouais. »
Celui pour les plastiques a un trou au milieu. Face à l'écologie, ce couple cafouilleux se défie pour de bon en chassant le gaspille. Leur amour vache allait bien sûr de mal en...
Pille.
Merci. Une suie. Elle coupait le chauffage et aussi la lumière. On se les gelait ferme en leur humble chaumière. Pour se laver, eau froide et savon de Marseille, elle servait au dîner du vieux pain de la veille. La chasse au gaspille rendrait-elle la vie plus belle? Ayant tant descendu et trié de poubelles, monsieur exaspéré finit par la descendre. Et trie soigneusement son épouse et ses cendres.
Oh là là.
Les os benne kaki, les cheveux dans la blanche. Pour ne rien égarer, il la coupe en rondelles. L'amour vache débité en belle et grasse tranche. Le juge est indulgent.
Ah bon, oui, évidemment, c'est un homme.
Il a chez lui la même.
Ah bon, oui.
Oui. Il sait bien que l'amour est un écosystème. Et de son jugement, il fait moralité. Quand on ferme les radiateurs, ça ne fait vraiment pas chaud au cœur. Bravo.
C'est pas beau, l'amour. Hein, mais ça apprendra aux femmes à demander à leur mari de descendre les poubelles. Il faut qu'elles arrêtent, quoi.
Si vous aviez dit la chasse au gaspille, évidemment, c'était tout
pas
différent.
Pareil. Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture jusqu'à 13h58 en direct et en public au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris. Alors, retour à l'Argentine avec une publi-papoucité écrite par Patrice Caumont, avec des rôles pour Ricardo Mosner, pour Jeanne Carion et Pablo Gignoli, au banc de néon. Alors, est-ce que vous savez que Buenos Aires et la ville du monde où il y a le plus de psychanalystes au mètre carré.
Oui, c'est vrai.
Une pub, pour le dire, une pub sur l'inconscient, le maté et le tango.
Bien avant le divan, la névrose se soignait au tango. Il y a de l'ombre dans l'ombre, de l'émoi dans le surmoi et du ça dans la cabeça. L'Oedipe du gaucho en pampers dans la pampa, c'est pas de la gnognotte.
Le gaucho cherche sa gauchère, mais la loi du père lui coupe l'herbe sous le sabot. L'interdit est là.
Alors, pour compenser, le gaucho tire sa gorgée de maté de la calebasse en sussotant la barbilla, c'est la tétine argentine, et c'est leur esquisse de la tétée qui grise l'Oedipe, car le maté est maternel.
Phèdre exquise qui nous brise vachement, la drôlesse, la diablesse de maman, l'incroyable empreinte de nos Oedipes fous, nous dit tes témoins, puisque je suis nous. Mère banquise paralyse son enfant.
La jeunesse sans tendresse serre les dents. L'effroyable contrainte tue l'oral désir. Du synthé ton donc nomma tes à loisir.
Le stade oral, même au choral, laisse des traces. Il y a du das dans la tasse de maté. Lacan l'a dit, l'inconscient est structuré comme un tango. C'est le désir en marche, il avance et bascule, et le gaucho vire à droite.
Bien des droitiers sont des gauchos contrariés.
Le tango a ses figures, c'est le kamasutra du fantasme. Pour mater vos pulsions, dansez le tango et buvez du maté.
La formule du maté est mathématique. Herbe plus eau plus moment. La formule du tango est dialectique. C'est suivez le guide et serrez-moi fort.
Adios muchachos, compañeros de mi vida, le tango de Carlos Gardel ne dit pas autre chose.
Piazzolla disait bye bye boys. Alors, bye bye boys, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada, bye bye boys, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Adiós, compañeros.
Adiós, Thanatos, pulsión de Eros, plus fort que toi. La loi du père, c'est castration féroce. Mon désir à moi, c'est régression et diproie. Pouvoir éliminer papa, maman, que pour moi. Adios Calvados, c'est le maté que je veux téter. C'est le saint éternel, maté maternel. Et le stade oral qui part en sucette, c'est très chouette. Suce ton pouce, tes pulsions seront muettes. Adios Thanatos, l'éros est plus fort que le ça.
Retour au pamphlet, c'est une façon de lâcher sa mauvaise humeur, peut-être aussi un peu sa mauvaise foi, sur une certaine chose qui vous hérisse. Et vous, Serge Joncourt, vous êtes un homme assez irritable, et il y a une chose, ou plutôt une catégorie de gens qui vous agacent. Mais vous agacent, c'est qui?
Oui, alors c'est un pamphlet à destination des gens qui fument dehors.
Ah oui? Oui. Vous préférez ceux qui fument dehors?
Non, mais attends, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça confine à la nouvelle mode.
Oui.
Les gens fument dehors, c'est insensé. Mmh. Depuis qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, ils fument tous dehors, comme si le dehors n'était pas par essence
un lieu public. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Alors, bon, je ne vais pas énumérer, la liste serait trop longue, toutes les façons qu'ont les fumeurs du dehors de nous incommoder, pardon. Au premier rang desquels figure cette provocation perfide qui consiste à marcher sournoisement devant vous, comme ça, en ville. Vous êtes là, sur le trottoir, à marcher à votre rythme, et voilà que vous vous retrouvez dans le sillage d'un fumeur qui marche devant vous en toute indécence, sans du tout se soucier de savoir où va sa fumée, tranquille. Mine de rien, il vous envoie ses volutes de blonde ou de pipe dans la figure.
Ah oui, on est un fumeur de pipe, c'est pas triste.
Oui, il est juste en face de moi, là, c'est pour ça que je me sens bouillir. Oui, il marche, petite locomotive stupide qui recrache sournoisement sa fumée et vous la flanque dans le nez. C'est une honte.
Oui, il faut respirer bien fort.
Et le pire, c'est les fumeurs terrasse. Ah. Oh, ben oui, il y aurait beaucoup à dire sur ces encommandants de première, ces gêneurs de place assise, ces flingueurs de matin calme. Ainsi, moi, l'autre jour, j'étais là, à la terrasse de ce magnifique café qui borde les boulevards extérieurs. Le long du périphérique.
Ah oui, je vois très bien, je le connais aussi. Oui.
C'est tranquille,
ouais.
20 000 véhiculeurs,
ouais.
Peinard, avec le parasol chauffant qui me cramait la casquette, et une belle bâche transparente qui me floutait le paysage.
Mmh.
Enfin bon, j'étais assis avec mon café allongé, seul, bien calé dans la particule fine.
Mmh.
Quand voilà Tipac, des gens qui n'avaient rien à faire là.
Oui, ils auraient dû être au boulot. Quoi.
Des consommateurs du dedans.
Ah oui.
Oui, voilà que trois gars viennent s'asseoir à ma droite, ayant visiblement laissé leur café sur le comptoir à l'intérieur.
Oui.
Et là, ils font quoi? Ils allument chacun leur cigarette et me la fument sur le nez. Mais je rêve. Pendant que leurs expressos refroidissaient à l'intérieur, ces gars-là me fumaient sous la bâche comme un saumon.
C'est pas correct.
C'est dégueulasse. Il n'y a pas à dire, ça me gâchait le moment. Encore heureux qu'on n'était jamais que sur le boulevard extérieur, parce que ça aurait été à la terrasse du Pic du Midi, ou devant la baie de Concarneau, ça aurait été pareil. Les trois andouilles m'auraient pollué le panorama avec le même goudron. Mais encore, tout ça n'est rien à côté des plus encombrants.
C'est lesquels ?
Les plus désolants. Oui. Les plus révoltants. Oui. Des fumeurs, de tous les fumeurs de dehors, il faut le dire, ce sont les fumeurs de bord de fenêtre. Ah, c'est une nouvelle mode. C'est dingue. Il y en a partout. Un vrai mouvement de civilisation. À croire que les fenêtres ont été inventées uniquement pour ne pas fumer à l'intérieur. Non, mais de nos jours, c'est simple. Dès qu'il y a une fumette quelque part, une fenêtre même.
Une fenêtre. Non, mais les deux vont si bien ensemble.
La fenêtre, oui, c'est une fenêtre. Dès qu'il y a une fenêtre, il y a un fumeur. Il y en a plein les immeubles. Celui qui est en face de chez moi, par exemple. Ouais. C'est plus possible. Dès que j'ouvre ma fenêtre en été, et même l'hiver, à 11h du soir. Vous savez, le soir, quand on aère sa chambre avant de se coucher pour déloger l'acarien, et qu'on jette un œil dans l'obscurité pour voir si la rue est toujours bien là. Enfin bon, quoi. C'est humain, quoi. Bon, là, à 11h du soir, donc, il faut toujours que je tombe sur une poignée de mes voisins de l'immeuble en face, qui sont là, accoudés sur le rebord de leur fenêtre, planqués dans l'ombre. Ils stagnent le long de leur immeuble comme des croisiéristes désœuvrés, sans même faire semblant de faire semblant de faire quelque chose. Non, ils fument, ils me regardent, ils polluent. Mais c'est révoltant. Alors, je pose la question. Il est où le lieu public, là, hein? C'est chez eux ou c'est dans ma rue?
C'est ma rue.
Bon, ces gens-là n'ont qu'à fumer chez eux. En plus, à 11h du soir, personne ne va venir les enquiquiner. Surtout que ce n'est pas interdit de fumer chez eux. Ah, chez eux, c'est bien privé.
Ouais.
On est d'accord. Mais non, plutôt que goûter confortablement leur cigarette assis devant la télé ou sous la couette, ils sont là à la fenêtre comme à un arrêt de bus. En plus, moi, à 11h du soir, j'ai aucune envie d'engager la conversation. J'ai aucune envie de faire le mec sympa et de répondre au bonsoir d'un voisin d'en face que je connais même pas. Des gens qui sont même pas de mon immeuble. Et pourtant, je le fais. Bonsoir. Un peu faux cul. Mais il faut, ce bonsoir, il me l'extorque. C'est du vol. Enfin bon. En fait, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ma rue est à tout le monde et qu'on ne fume pas chez tout le monde. Mais bon, comme j'ai pas envie que leur blonde me colonise la chambre, eh ben je referme ma fenêtre et j'aère en grand par le couloir en ouvrant la porte. En général, sur le palier, il n'y en a pas. Hein. Bon. Ça, non, les fumeurs de fenêtre, c'est les pires, une vraie nuisance. Alors finissons-en. Réglons une bonne fois pour toutes ces aberrations. Décrétons que le dehors est un lieu public comme un autre, au même titre qu'une gare ou qu'un restaurant, pour qu'enfin les fumeurs ne puissent plus polluer l'atmosphère de nos villes et qu'ils s'enferment tous chez eux pour se fumer en dedans. Et après tout, qu'ils y restent chez eux dehors, il y a assez de voitures, de diesel, de cheminées, d'usines, et qu'ils y restent. C'est ça, oui, qu'ils restent chez eux, mais à une condition.
Oui.
À une condition.
Laquelle ?
Qu'ils ferment la fenêtre.
C'est un homme violent, tranché, Serge Joncourt. Dominique Müller, quel est votre point de vue sur le sujet? Vous êtes pour les fumeurs du dehors?
Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis fumeuse.
Donc vous êtes
révoltée. Je ne lui envoie pas dire. Ouais. Voilà. Ouais. Vous prenez-vous pour Cléopâtre, au nez fragile? Le fumeur du dehors, votre pif horripile. Ah non, c'est un peu court, Cyrano à la gomme. Vous confondez par trop rabat-joie et pince-homme, car il ne suffit pas de vous pincer le nez pour savoir d'un rostan la tirade assénée. Ce que j'ai dans le nez, fumeuse à ciel ouvert, ce sont les pisses froids, les teigneux, les sévères, qui oublient que dehors, ça veut dire à l'air libre, et me fusillent touc, d'un tout petit calibre. La vapeur du tabac qui me sort des narines me retient d'exploser contre leur triste mine. J'aurais pu recourir à la facilité, comme vous, en géniant, inspirer la pitié, me présenter en cendre ou blond de cigarette, tirer du sac en douce, allumer en cachette, puis mégot clandestin fourré dans mon mouchoir, de peur d'être accusé, jeté sur un trottoir. Pourquoi donc tant de haine? Je ne suis que fumeuse, et dedans et dehors, où l'on me voit tueuse, assassinant d'une volute à ma fenêtre des êtres innocents que mes poisons pénètrent. Je sais bien, le tabac abîme les poumons. Eh bien, vous n'avez qu'à changer de guéridon en terrasse du bar ou traverser la rue si vous toussez, crachez, suffoquez à ma vue. Quand les cafés tabac s'appelaient Cyrano, vous ne pointiez jamais vos nez de tyranneau. La loi vous enhardit, prêts à la dictature des bronches sans glaviaux, au milieu des voitures, des pots d'échappement, des particules fines. Et c'est sur moi que vous criez qu'on la confine. C'est faire peu de cas des autres pollutions. Votre gueule d'abord, la voilà l'agression.
Quatre pauvres sœurs,
bah oui,
non, mignon.
Qu'a-t-on aux petits pieds d'Elenda Est Clopa? Vous en rêvez de mettre les fumeurs au pas. Exigez d'effacer la clope des affiches. Tremblez de voir au bec des vampes une cibiche. Refusez d'éprouver les plaisirs d'une pipe. Traitez le poète enfumé de pauvre type. Ah ça, je reconnais votre sinistre engeance, fière de n'avoir pas un zeste d'indulgence. Est-ce que je vous pourfends, vous, vos manies, vos tics? Vous ai-je reproché votre regard de flic, dardé sur ma fumée, et vos doigts qui gigotent, et ces soupirs à fendre l'âme qui crachotent, Talma agonisant sous trop de nicotine? Non mais, pourquoi subir ta prose cabotine? Imagine, si tu sais ce que le mot veut dire, que tu tombes amoureux d'un fumeur, ton martyr. Mais non, c'est impossible, il n'y a qu'à voir ta binette. Tu préfères ignorer la part de la planète, rôdant pestiférée autour d'un cendrier. On y flirte, sais-tu, s'enflammant le gosier. On pue ? Vas-y, enferme-toi dans ta bagnole, mets la sono à fond, poum poum, sans fumerole. Puisque le bruit des rues ne te fait pas violence, ni les crottes de chiens, ni des gens l'insolence. Fumer, c'est mal, mais pire est le mauvais coucheur, brandissant son glaive sur nous, pauvres fumeurs. Ton nez n'est qu'un naseau écumant de fureur, Cyrano de Guignol, plus renfrogné, tu meurs.
Oh, quel joli vers, magnifique, magnifique. Il a un mot à rajouter, Serge Rancourt?
Mais non seulement elle fume, mais en plus elle a un verre dans le nez. Alors...
Allez, une chanson traditionnelle par Jeanne Carillon, accompagnée au bandoneo par Pablo Gimeno. Gignoli. Pourquoi j'ai dit Gimeno? C'est encore un cycliste, je crois.
Parce que vous avez fumé. Trop fumé.
Ah, trop fumé, c'est ça. El negrito, musica, Pablo.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita y acapumba, y acapumba, apumba y acapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando va de luto, trabajando, sí. Pan negrito chiquitito, trabajando, sí. Pan negrito chiquitito, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête au Salon du Livre, en direct et en public, c'est le fameux DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle. Alors, de quoi s'agit-il pour les 2-3 personnes qui ne connaîtraient pas? Gérard Mordillat a choisi, oui, distribuer, Gérard, le texte choisi à nos 4 experts, Eva Almassi, Patrice Delbourg, Dominique Muller et Serge Joncourt. Donc, Eva, vous l'avez, c'est bien. Un de trop, ben je le garde. Donc Gérard Mordillat, vous avez choisi un texte, un morceau de littérature, une quinzaine de lignes à la lecture, qui est anonyme.
Absolument, voilà. Oui.
Comme les goûteurs de vin testent un vin, nos experts vont goûter, vont humer la saveur de ce morceau de littérature. Et ils devront bien sûr se poser des questions pour, au bout du compte, arriver à trouver le nom de l'auteur de l'extrait en question. Il ne s'agit pas d'une devinette, il s'agit, je vous préviens, de donner des arguments littéraires et non pas psychologiques. Gérard Mordillat, on vous écoute.
Est-ce que vous êtes aussi un détective ? Oui, Fioras, oui. Ça ne fait rien, aucune importance. Puis il descendit tranquillement les marches et ressortit dans le soleil. Il demeura là, tandis que, de chaque côté de lui, elle passait en flots réguliers de petites robes multicolores, bras nus, cheveux plaqués et brillants, avec dans leurs yeux cette identique expression de fraîcheur innocente et hardie qu'il connaissait si bien, avec l'identique et violente peinture de leur bouche. Comme de la musique en mouvement, comme du miel versé dans un rayon de soleil, païenne, fugitive et sereine, toutes les joies perdues.
Je vous reprends. Avez sauté une ligne.
Oui, je reprends.
Oui, mais c'est important. Bah, comment voulez-vous que les auditeurs puissent jouer?
Bah oui.
Ah bah alors ils vont jamais trouver.
Écoutez bien.
Oui.
Païenne, fugitive et sereine, évocation ensoleillée et légère de tous les jours abolis et de toutes les joies perdues. Dans un flamboiement de lumière, dans un miroitement de chaleur, leur flot s'épandit à travers des clairières ouvertes sur des visions de mirage. Pierres ou briques, colonnes sans chapiteaux, tours qui semblaient flotter au-dessus d'un nuage vert en une lente débâcle à l'encontre du vent du sud-ouest, sinistre, impondérable, anonyme. Et il restait là, attentif à l'apaisement claustral de la cloche, se demandant « Et maintenant ?»
C'est un beau texte, non ? Oui ?
Imagé.
Imagé, très imagé. Oui. J'aimerais bien savoir, Patrice Delbourg, parce que vous êtes à côté de moi et vous prenez des notes, vous soulignez, vous encadrez, comme les autres experts d'ailleurs. Première impression ?
Ah, c'est un texte de plein air.
Oui.
Oui, c'est un texte de bonheur, de béatitude. C'est un texte qui est plutôt écrit par un homme, j'imagine, torse nu. Dans son hamac, en train de boire du mezcal ou du vino verdé. Je vois ça comme ça.
D'accord. Première impression, oui. Dominique Muller. Alors, vous aussi, Serge?
Oui, sinon je verrais plutôt de l'ouzeau, moi.
Ah bon?
Ah,
oui. Ah oui, ça indique une piste.
Oui, la Méditerranée, là. Bon, déjà, bon, alors, ces jeunes femmes avec les robes multicolores, les colonnes sans chapiteaux, ces corps
fous. Il fait beau.
Il fait beau, il fait très chaud. On parle de soleil, de chaleur, ensoleillé, etc. C'est une indication. Vous savez, il ne faut pas négliger les indices dans ce genre d'exercice.
Non, c'est vrai.
Et en l'occurrence, il y a des indications géographiques, météorologiques, qui amènent vers la Méditerranée.
Bon, on va voir. Oh, Dominique Muller fait des signes de dénégation. Il n'est pas d'accord, Dominique. Vous n'êtes jamais d'accord, tous les deux.
Je m'insurge parce qu'il me semble que c'est une évocation du plein air. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que c'est l'apaisement claustral de la cloche. C'est quelqu'un qui est enfermé et qui revoit dans sa tête la liberté, le plein air. Alors, en effet... des évocations. D'autres termes me font penser ça. Ce sont des visions de mirage. Ce sont des jours abolis. Ce sont des joies perdues. J'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui est, d'une manière ou d'une autre, ou en prison, ou dans un monastère, et qui revoit, pour je ne sais quelle raison,
La vie passée,
le plein air, difficile. Des petites gamines ouais. qu'il décrit assez précisément. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il est en prison.
Eva El-Massi, première impression, est-ce que ce serait une traduction pour vous?
Non, je pense que c'est écrit en français, mais moi aussi, je me suis demandé si c'était pas une hallucination. On sort d'une église, on reste sur le parvis de l'église, mmh. et on a soudain une vision païenne. Il y a ces jeunes filles qui pourraient faire partie d'une procession, mais dont la peinture violente de la bouche et la nature païenne montrent bien qu'elles sont opposées à ce qu'on a reçu à la messe, peut-être. Sauf que c'est un détective aussi, donc c'est le mot qui me trouble.
Oui, c'est étrange.
Dans tout ça, c'est oui. ce détective qui sort d'une église.
Voilà, et qui aurait fait un passage en prison pour Dominique Müller. Patrice Delbourg, c'est une traduction ou c'est écrit en français, comme le pensait Val.
C'est peut-être une traduction. C'est peut-être une traduction, disons, d'une langue solaire. Il y a de la couleur, il y a de la brillance. C'est le regard certainement le regard d'un vieux gaucho, enfin un homme de la pampa, pas un homme des barricades, qui est là et c'est un texte qui à la fois ébouriffé et à la fois calamistré. C'est très étrange quand on le lit. Enfin, en tous les cas, c'est quelqu'un qui se relie. L'auteur, il soigne ses longueurs, il soigne ses pointes. Hein, c'est quand même extrêmement tenu. Ce texte, bien qu'il écrive dans un hamac, c'est quand même un homme qui écrit un peu débraillé, en espadrille et en vieux short colonial, mais qui surveille sa syntaxe.
Ah oui, c'est vrai que c'est un très joli texte. Serge Joncourt, avec vous, on était en Grèce. On a évolué avec le point de vue de vos camarades ou pas?
Non. Non, je ne me laisse pas facilement influencer. Non. Ce qu'il y a, c'est ce qui me gêne un peu, c'est le détective, pour tout dire, parce que d'une certaine façon, ça m'amène à... Je vais vous dire, moi, j'ai une sorte de méthodologie assez basique.
Comme expert,
Pour tout ce que je fais, d'ailleurs. Hein. Je vois le mot « détective », donc ça me fait penser à un texte américain.
Ah.
J'aurais vu commissaire, j'aurais dit Simenon ou un autre.
Maigret,
oui. J'aurais vu un cosaque, j'aurais pensé à... Bon.
Ouais.
Donc,
il y a les Anglais aussi. Des détectives.
Absolument, anglais, américain, enfin anglo-saxon, on dira.
Oui, c'est vrai.
Ce qui m'amène, mine de rien, sans aucune facilité, à la piste de la traduction. Parce que moi-même, je suis un peu le détective, en l'occurrence. J'essaie de traquer le sens et l'auteur derrière. Et malgré moi, déjà, il se dessine.
C'est vrai?
Oui, absolument.
Ah oui, je vois que vous avez déjà écrit des noms, mais quelle flèche, Serge Joncourt.
Oui, non, ça, c'est pas. Là, ça, c'est la liste des commissions.
Bon, avant de... c'est pour le déjeuner.
Oui, absolument.
Dominique Müller, français
en effet,
ou pas?
Je dirais latino-américain. Ouais. C'est peut-être influencé par la journée.
Pensez mais que Gérard Mandilla
non, parce qu'il y a, par exemple, cette phrase qui est les tours qui semblaient flotter au-dessus d'un nuage vert. J'en reviens aussi à l'onirisme. Vers une lente débâcle à l'encontre du vent de sud-ouest, sinistre, impondérable, anonyme, on voit très bien une espèce de vieux petit village d'Amérique du Sud, tant décrit par nos auteurs sud-américains, que je ne vous nommerai pas parce qu'ils ne me viennent pas tous en tête.
Oui.
Voilà. Mais je vois bien une espèce de scène très onirique dans un village perdu du fin fond de au-dessous du volcan, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui.
Eva El-Massi, pour vous, on est dans le Cantal, alors, plutôt.
Non, mais en même temps, ce point de vue est très intéressant. Oui,
merci, Eva, oui. Merci, je suis très touchée.
Cela dit, alors... si ce n'est pas l'alcool, qu'est-ce qui rend notre détective si désabusé et pourquoi, dans un texte aussi lumineux, on a autant de sentiments sinistres et de joie perdue? En tout cas, pas la joie de l'écriture.
Je vous pose la question. Pourquoi?
Alors, je n'ai pas la réponse pour moi. Il faut que je lise pour ça tout le roman, puisque je pense qu'il s'agit d'un roman.
Un bon gros roman épais. Qu'est-ce que vous pensez, Patrice Delbourg? Non. C'est une petite nouvelle.
Oui, peut-être une petite novella, donc qui ne se passe pas, on l'a remarqué, ni au Groenland, ni en Islande. Je pense que l'auteur n'est pas un viking, il ne raconte pas des histoires de lemming. Il boit du mescal, ça on l'a dit. C'est vrai qu'on peut être influencé par l'invité d'honneur du Salon du Livre et penser plutôt à certains auteurs qui sont ici sur les rayonnages tout autour de nous. Ouais. En tous les cas, il y a une musique des sphères, il y a une ferveur dans ce texte qui est indéniable.
Ah bah c'est magnifique, on se laisse emporter. D'ailleurs, c'est un choix de Gérard Mordia, c'est probablement un livre qu'il aime.
Oui.
Hein, bon. Vous voyez, il faut avancer des noms. C'est un long cours.
Déjà.
Oui, 13h51. Hein.
Ouh là. Alors,
oui, c'est un
ma grille de lecture, vous l'aurez compris, elle est très simple. La Grèce, un Américain ou Anglais.
Oui.
Alors, ce qui me gêne, encore une fois, c'est le détective, mais je pense que ça doit être quelque part dans le colosse de Maroussi, de Miller. Vous savez, c'est épais.
Hein. C'est épais.
C'est épais, il boit pas mal.
Oui.
Il aurait pu, à un moment, une sorte de digression hasardeuse sur un détective. Mais enfin, bon, le décor est là, pour moi.
Oui, il est planté.
C'est Corfou, on y est. Oui.
Ah, et ce serait un clin d'œil à notre livre 36 facéties pour des papous dans la tête.
Sans aucun doute.
Dans lequel Jacques Vallée aborde le problème du colosse de Maroussi.
Et que Henri Miller avait lu. Oui,
voilà, donc nous avons un Henri Miller pour Serge Joncourt, Dominique Muller.
Et un anglo-saxon pour faire plaisir aussi à Serge. Toujours, c'est Malcolm Lowry, vraiment au-dessous du volcan.
C'est, voilà. C'est carrément au-dessous du volcan. Oui, bon, ben, c'est bien. Hein. Ce sont des belles pointures, en tout cas. Eva Almassi.
Mais alors, pour vous dire comment je reviens de loin, au début, Église, et puis le côté païen, je pensais à la faute de l'abbé Mouret de Zola, mais il n'y a pas de détective dedans. Il n'y a pas de détective dedans, ni d'ailleurs dans... Il n'y a pas ce nom Horace non plus dans Le Grand Monde d'Alain Fournier, parce que pour la luminosité, j'ai pensé aussi à lui. Alors j'ai très envie de rejoindre Malcolm Lowry, parce que à ce moment-là, j'ai basculé dans mes analyses et je me suis dit, il y a peut-être même un détective là-dedans. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, Patrice Delbourg?
Je copie.
Un petit peu, oui, je ne sais pas le dire.
Moi, j'ai rien dit.
Le style, le torrent tellurique fait penser un petit peu à Malcolm Lowry, Horatio aussi. Bon, le détective serait plutôt penché vers Montalban.
Pas mal.
N'oublie Montalban, bien sûr, mais nous sommes ici quand même au Salon du Livre de Versailles avec un invité d'honneur, donc je me rallierai à Cortazar.
Cortazar. On n'a que du bon monde à vous proposer, Gérard Mordia, deux Malcolm Lowry pour Dominique Muller, pour Eva Almassi, un Henri Miller pour Serge Joncourt et un Julio Cortazar pour Patrice Delbourg. Vous avez établi une liste de trois noms.
Oui, trois noms et aucun de ceux-là.
C'est dommage, ça commence bien. Vous avez perdu.
Donc, je donne mes trois noms tout de suite. Un a été cité d'ailleurs, Georges Simenon, William Faulkner... Et Gabriel Garcia Marquez.
Ah, ben quand même.
Ah, ben Faulkner, vous le dites parce que c'est venu dans les gonfleurs de texte, non?
Bien sûr.
Alors, Simenon, Faulkner, Garcia Marquez, il faut vous prononcer très vite, Dominique Muller.
Alors, je vais rester cohérente, j'avais parlé d'Amérique du Sud, donc je vais dire Garcia Marquez. Puis voilà.
Oui, c'est logique, un Garcia Marquez, Serge Joncourt.
Oui, alors, ça sent Garcia Marquez, mais en même temps, j'ai certifié que c'était traduit de l'anglais.
Oui.
Donc,
il y a des traces. Oui. On peut réécouter avec le podcast.
Absolument. Oui, ça, c'est le problème de la radio. Oui. Ça enregistre. Eh bien, c'est pas Simenon.
Non.
Mais ça pourrait être Faulkner.
Qui vous ressemblerait un petit peu, finalement, alors.
Oui, mais tout le monde me ressemble.
Un Faulkner, Eva Almassi.
Je vais dire Garcia Marquez, mais ce n'est pas pour copier. Hein, c'est parce que j'écarte les deux autres.
Ah, c'est un choix par défaut, c'est pas
pour... Non. Si, pour vous dire, ça m'a même traversé l'esprit un petit côté tout à l'heure des années de solitude, quoi.
D'accord.
Sans précisément.
Et Patrice Delbourg, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Le détective, c'est un piège, ça ferait penser à Simenon. Marquez, c'est un piège, cette flamboyance,
parce que c'est trop simple,
etc.
Oui.
Donc c'est, et je suis un peu bête de ne pas l'avoir reconnu tout de suite, c'est la page 71 de Pylône de William Faulkner.
Très bien. Gérard Mandilla, on vous offre deux Faulkner. Ce sont les choix de Serge Joncourt et de Patrice Delbourg. De Garcia Marquez, ce sont les choix de Dominique Muller et Val Massy. Et pas de Simenon, est-ce qu'il y a un ou des gagnants ou,
il y a des gagnants,
oui,
dont un à la mémoire qui flanche, puisque c'est effectivement de Faulkner, dans Sanctuaire, c'est...
Et c'est quelle page, 80 et page 71,
Il est dans toutes les pages, c'est un des deux personnages principaux, avec Popeye l'assassin et Faulkner qui est... incarné par ce personnage de Horace, qui est l'homme qui se pose des questions.
Et ça raconte quoi, juste après, juste avant ?
Ça raconte un assassinat sordide et le viol d'une jeune femme qui s'appelle Temple.
Il a fait un séjour en prison ou pas, le héros ?
Non, il n'a pas fait un séjour en prison. C'est lui qui va pousser en prison Popeye, qui est l'assassin et le violeur.
Ah, d'accord.
Son témoignage va être décisif au moment du procès.
On a deux très beaux vainqueurs, Serge Joncourt et Patrice Delbourg. Bravo à vous.
Bravo.
Des papouilles dans la tête au Salon du Livre à Paris, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Trossard avec la bande des papous du jour. Équipe technique et de réalisation, Tanguy Le Corneau, Emmanuel Morse, Pierrick Monsigny, Franck Lilin, chargé de production Jean-Christophe Perrin. Un numéro des papous à podcaster, bien sûr, sur franceculture.fr, à la page des papous du jour, où vous pouvez poster vos remarques, suggestions, questions, réflexions, rubriques, commentaires. Et vous savez, on aime bien vous lire et quand c'est nécessaire, on vous répond. On se quitte en musique. Il y a ora una variación musicale sur le générique des papous dans la tête par notre bande de néonistes argentins préférés. Pablo Gignoli. ¶¶